Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin, donc une émission Vivante Église pour les 400 ans du Carmel de Toulouse. Donc nous sommes à Muret, donc à quelques dizaines de kilomètres de Toulouse, pour cette émission spéciale, puisque nous sommes en direct donc, de ce Carmel. Nous sommes même dans l'un des parloirs, et j'ai en face de moi, de l'autre côté de la grille qui nous sépare, trois religieuses que nous allons vous présenter dans un instant. Le Carmel de Muret, donc le Carmel de Toulouse, pardon, qui fête donc ses 400 ans. Et avec nous donc sœur Marie-Claude qui est historienne, sœur Geneviève, vous êtes la prieure de ce couvent, et sœur Marie de Jésus.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, donc je le disais, émission particulière. Ma mère, merci déjà d'avoir accepté de nous recevoir. C'est vrai qu'on s'est contacté à plusieurs reprises. Alors on va commencer peut-être par un tout petit peu par décrire ce lieu qui est quand même très particulier. On arrive de la route et puis on rentre déjà dans une grande allée, dans un jardin où on sent que le silence commence à s'installer. Et puis donc, très gentiment, quelqu'un nous a accueillis. Et là, on est côté parloir. Donc le parloir, c'est deux pièces très simples avec des chaises en bois. Et donc, il y a une grille qui nous sépare. Je vous aperçois quand même. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être la première chose, quelle est la signification de cette grille qui probablement dit quelque chose de votre clôture? Pourquoi cette grille qui nous sépare?
Je pense que vous le comprendrez un petit peu mieux quand on aura parlé de notre vie spirituelle et la manière dont nous vivons. La grille n'est pas une séparation du monde dans le sens d'une coupure avec le monde. On reste en relation avec lui, que serait-ce pour prier pour lui, il faut savoir ce qui s'y passe, mais aussi pour préserver un enclos pour être avec Dieu seul. Donc notre but, c'est d'être avec Dieu et prier pour le monde. Et bien sûr, nous-mêmes, nous essayons d'être le plus proche de Dieu, de travailler à notre propre sanctification et à celle du monde pour que nos prières soient mieux entendu de Dieu, si vous voulez, dans la mesure où on se sanctifie soi-même.
Alors déjà, quand on arrive, en fait, donc quand on prend l'allée, donc on arrive devant votre église, et là, et donc il y a une phrase sur le sur le linteau. Enfin, je sais pas exactement comment on dit. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la phrase qui est indiquée et qui annonce la couleur, si je peux me permettre?
Tout passe, Dieu seul demeure. Et cette phrase a été choisie par une de nos prieures qui a construit. Qui a aidé à construire ce Carmel quand on est parti de Toulouse il y a 50 ans. Et c'est elle qui a eu cette phrase à la bouche, et du coup, on l'a écrite sur le fronton de la chapelle.
Voilà, donc une atmosphère très particulière. C'est vrai, quand on vient de la ville, quand on vient de la route, du bruit, on sent qu'ici, on rentre dans quelque chose d'assez mystérieux pour tout un chacun. Donc on rentre un petit peu avec vous dans le silence. Alors on va commencer cette émission, sœur Marie-Claude. Cette année, donc, vous fêtez les 400 ans du Carmel de Toulouse et pas du Carmel de Muret, même si vous êtes aujourd'hui à Muret ou juste à côté. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quand est né ce Carmel de Toulouse? Quelle est un petit peu son histoire?
L'histoire du Carmel de Toulouse, c'est une longue histoire de 4 siècles qui a débuté en 1616 au quartier Saint-Cernin et à l'initiative de laïcs. En particulier, le fondateur, c'est un membre du Parlement de Toulouse, M. de Ressellier, qui avait la chance d'avoir 4 filles. Qui avaient toutes les 4 la vocation religieuse.
Je vois que ça vous fait sourire, ma mère.
Oui. Donc, et en plus, donc, le Carmel espagnol, le Carmel réformé par Sainte Thérèse, avait été introduit en France en 1604 par 6 carmélites espagnoles qui avaient connu Sainte Thérèse.
Sainte Thérèse d'Avila, donc.
Oui, Sainte Thérèse d'Avila. Qui était venu en France pour initier ce mode de vie religieuse.
Donc vous voulez dire que le Carmel de Toulouse, c'est un des premiers Carmels qui a été fondé en France après
11e,
la Réforme.
Le 11e Carmel fondé en France. Donc ça a commencé en 1604 à Paris. Et ensuite, les mères espagnoles ont fondé Elles sont allées après à Amiens, Dijon, Rouen, Bordeaux et Toulouse. Et c'est une mère espagnole qui a fondé à Toulouse, elle se trouvait à Bordeaux. C'est la mère Isabelle des Anges, qui était du Carmel de Salamanque et qui est venue en France avec ses compagnes. Donc, elle se trouvait à Bordeaux où elle avait déjà fondé un Carmel. Et monsieur de Rességuier, qui était plus ou moins en lien avec le Parlement de Bordeaux, a appris cette fondation. Et comme par chance, le cardinal de Bérulle, enfin, il n'était pas encore cardinal, monseigneur de Bérulle, qui avait fondé l'oratoire et qui était le supérieur régulier du Carmel français, se trouvait à Bordeaux. Donc, monsieur de Rességuier s'est adressé au père de Bérulle, qui a accepté d'envoyer la mère Isabelle des Anges à Toulouse.
D'accord. Donc, du coup, ça fait 400 ans que oui. le Carmel de Toulouse existe.
Oui. Exactement.
400 ans qu'il y a des religieuses ici.
Voilà. Et malgré les vicissitudes de l'histoire, la communauté s'est toujours maintenue. Il n'y a jamais eu d'interruption, pendant la Grande Révolution.
Vous voulez dire que pendant la Révolution française, il y avait encore une communauté de...
Oui, oui. Ah, elles oui. étaient à la rue du Périgord. Le Carmel est à l'emplacement de l'actuelle bibliothèque municipale.
D'accord.
Il reste la chapelle.
Et ici, à Muret, vous êtes là depuis combien de temps alors ?
Depuis 1962.
1962, d'accord. Oui. Donc ça fait un petit peu plus de 50 ans.
Oui, un peu, c'est oui.
Alors aujourd'hui, ma mère, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être brièvement combien vous êtes de religieuses ici, dans cette
alors,
communauté ?
En ce moment,
quelle différence d'âge ? Est-ce qu'il y a des jeunes sœurs ?
Donc en ce moment, nous sommes 14 en communauté. Et deux en maison de retraite. Et la communauté est assez homogène au point de vue âge, puisqu'il y a quatre, si je ne me trompe, quatre anciennes et quatre jeunes. Je mets dans les jeunes celle qui a 40 ans aussi, de 40, 33, 32.
Voilà, vous tournez vers Sainte-Marie-de-Jésus qui confirme.
Voilà. Et donc, ce qui fait que les autres au milieu, 4 et 4, 8, et puis voilà. Ce qui fait que c'est assez équilibré au point de vue âge.
Alors, sœur Marie-Claude, vous nous avez donc brièvement présenté donc, les débuts de la fondation de ce Carmel de Toulouse. Donc, ça, vous dites que ça fait 400 ans sans interruption, ce qui n'est pas le cas du tout de tous les Carmels.
Oui.
Hein. Donc, il y a des religieuses, même si vous n'êtes pas ici, près de Muret, depuis 400 ans, on l'a compris. Est-ce que vous pouvez nous parler plus largement de l'ordre du Carmel ? Quand est-ce que le Carmel est né ? Ça remonte très très loin dans l'histoire de l'Église et ça a commencé ailleurs, en Palestine.
Oui, le Carmel tire son nom d'une montagne, si on peut dire, de Palestine, le mont Carmel, qui est une sorte d'escarpement rocheux qui est vers le nord de la Palestine, au-dessus de Haïfa, de la ville actuelle de Haïfa. Et c'est là, dans cet emplacement, que le Carmel a commencé. On pense à la fin du XIIe siècle, au début du XIIIe. Et autant qu'on peut le savoir, ce sont des croisés venus d'Occident, de différents pays d'Occident, et qui se sont, après plusieurs batailles, réfugiés, disons, qui ont opté pour une vie religieuse érémitique.
Érémitique, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire une vie d'ermite.
Ils vivent comme des ermites, c'est-à-dire voilà. En solitude.
Voilà. Et parce
dans
que dans cette montagne du Mont Carmel, il y a des grottes. Et en particulier, il y a toujours la grotte de Saint-Élie, où la tradition dit que le prophète Élie s'est réfugié et a vécu. Donc les premiers carmes, si on peut dire, les frères du Mont Carmel, ont commencé à vivre dans ces grottes. Et ensuite, ils ont construit un monastère.
Donc juste avant que vous alliez plus loin, c'est-à-dire que donc c'est dès le début, en fait, ça dit quelque part, enfin quelque chose de particulier de votre spiritualité, c'est-à-dire que la vie en solitude, seule avec Dieu, oui. Est extrêmement importante.
Voilà, c'est ça. Essentiellement, ce sont des ermites. Et au départ, l'aspect érémitique était beaucoup plus marqué que ce qu'il est maintenant.
D'accord, donc ça c'est le XIIe siècle. Si on continue après, donc, si j'ai bien compris, après ces ermites en fait commencent à vivre en communauté, c'est le début de communauté monastique. Comment ça se passe peut-être juste avant la réforme de Sainte-Thérèse d'Avila ou Saint-Jean de la Croix ? À quoi ressemblent ces monastères ?
C'est-à-dire qu'au cours du XIIIe siècle, les musulmans ont progressivement reconquis la Terre Sainte et en même temps, les ermites du Carmel, par groupe, ont quitté le Mont Carmel pour rentrer en Europe à cause de l'insécurité. Donc ils sont repartis plus ou moins dans les pays d'où ils étaient originaires. Et c'est à cette époque-là qu'il y a un groupe est arrivé à Toulouse. C'était au temps de Saint-Dominique, et c'est l'évêque Foulque qui les a accueillis.
Vous voulez dire, c'est au XIIIe siècle, c'est ça ?
Oui, au XIIIe siècle. Et d'abord, ils se sont installés en dehors de la ville, au Ferretra. Et assez rapidement, ils sont venus en ville. Le monastère des Grands Carmes, comme on dit maintenant, était situé place des Carmes. C'était, à l'époque, c'était au bord du quartier juif, à Toulouse.
Et donc, ils vivaient une vie monastique, qui ressemble à la vôtre, d'une certaine manière ou...
Oui, plus ou moins. C'est-à-dire que, du fait de s'être installés en Europe, ils ont été obligés de modifier un peu la règle. En mettant plus l'accent sur la vie communautaire, c'est ce qui fait la spécificité du Carmel, qui est un peu particulier. Ce sont des communautés d'ermites. C'est contradictoire, c'est paradoxal. Ou on est ermite, ou on est en communauté. Là, ce sont des communautés d'ermites. Donc, le fait d'être en Europe, ils n'ont pas pu vivre aussi ermite, de façon aussi ermitique qu'en Terre Sainte. Et...
Allez-y, ma mère, vous voulez intervenir, dire quelque chose.
Il fallait qu'ils ressemblent à l'époque aux communautés nouvelles qui étaient les jésuites et les dominicains.
Non, non,
les
non,
dominicains.
Non.
Les dominicains. Ils étaient prêcheurs.
Oui, oui, surtout les...
Ils étaient mendiants.
Les mendiants, voilà.
D'accord.
Les mendiants.
Bon, en tout cas, on a compris. Donc, on allait d'une vie érémitique vers une vie monastique.
Oui, voilà.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, même si c'est le sujet de l'émission, c'est pas d'abord de faire une émission d'histoire, mais c'est pour poser un petit peu le décor avant qu'on rentre un peu dans le concret de votre vie, qui, pour beaucoup de nos éditeurs, probablement, est difficile à comprendre, un peu mystérieuse. Il y a aussi donc cette grande réforme du Carmel, donc par Sainte-Thérèse d'Avila et Saint-Jean de la Croix. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot et nous dire, je ne sais pas, à quelle branche du Carmel aujourd'hui vous êtes rattaché, quelle grande famille ?
Alors d'abord, il faut que je vous dise, il n'y a pas eu de carmélites jusqu'au milieu du XVe siècle. Il n'y avait que des hommes, que des carmes. Et les carmélites ont été créés en France, à Vannes, par la duchesse de Bretagne, Françoise d'Amboise, qui a commencé à fonder des monastères de femmes. Et ils se sont répandus assez rapidement. Et en Espagne, à Avila, le monastère de l'Incarnation a été fondé en 1575, l'année de la naissance de Sainte-Thérèse. Et c'est dans ce monastère que Sainte-Thérèse est entrée 20 ans plus tard, en 1535. Où elle a commencé à vivre la vie carmélitaine mitigée. Ça veut dire que la règle primitive avait été adoucie au cours des temps.
Voilà, alors juste à gros traits, en quoi consistait cette réforme de Sainte-Thérèse d'Avila et Saint-Jean de la Croix ?
Sainte-Thérèse.
C'est revenir un peu à l'esprit des débuts ou...
Oui, oui, oui. Elle a eu la chance de retrouver la règle primitive par tout un concours de circonstances. Et essentiellement, sa réforme, c'est. Les aspects de sa réforme, ça a été un retour à une plus grande pauvreté, à une vie de prière plus intense. C'est elle qui a initié les 2 heures d'oraison qui n'existaient pas au monastère de l'Incarnation, et une vie fraternelle encore plus grande. Et c'est Sainte Thérèse qui a inventé, si je peux dire entre guillemets, les 2 heures de récréation où les carmélites peuvent se retrouver et parler entre elles.
2 heures par jour ?
Oui, par jour.
2 heures d'oraison, 2 heures de récréation.
Voilà.
C'est un bon équilibre.
Voilà.
Alors... Et surtout, pardon, Sainte Thérèse a insisté beaucoup sur la clôture. C'était un retour à la vie érémitique, et en même temps, elle s'est rendue compte que si elle voulait vivre une vie de prière sérieuse, il fallait rompre avec... Je dirais, si j'osais dire, le tohu-bohu du monastère de l'Incarnation, où il n'y avait pas de clôture, et où les laïcs, les gentilshommes d'Avila pouvaient entrer, les familles, etc. Et donc, c'est en réaction un peu contre ce qui se passait au monastère de l'Incarnation que Sainte Thérèse a fait sa réforme.
Alors, peut-être avant qu'on fasse une première pause musicale, ma mère, sœur Geneviève, il y a deux grandes branches aujourd'hui chez les Carmels. Il y a donc la famille carmélitaine, Il y a les grands Carmes et les Carmes d'Échaux. Alors à quelle branche vous appartenez? Les grandes couleurs de votre spiritualité.
Oui, les Carmes d'Échaux, je ne m'en occupe pas pour le moment, parce que ça a commencé d'abord, les grands Carmes, ce sont eux qui étaient là. Et que Sainte Thérèse a connu. Et quand elle a fait cette réforme, elle a voulu aussi des carmes qui pensent, qui vivent comme elle. Et c'est là où intervient Saint Jean de la Croix, qui était le plus connu, des nouveaux, cette nouvelle branche de carmes. Donc les grands carmes sont ceux qui sont restés comme avant, et les carmes d'Échaux sont ceux qui ont pris la réforme de Sainte Thérèse. C'est-à-dire avec les 2 heures de raison, les 2 heures de récréation. Elle les prenait même dans ses voyages pour nous montrer la forme de vie que nous avions. Et aussi parce qu'il faisait des études et qu'il pouvait aider les carmélites en tant que prêtre et en tant que confesseur et conférencier. Enfin, voilà. Donc voilà, les deux branches sont c'est ça. Ça a été, et d'ailleurs il y a eu beaucoup dit.
Donc, c'est-à-dire que vous êtes rattaché à la branche
À la branche de Sainte Thérèse.
Donc, des Carmes d'Échaux.
Sainte Thérèse, on l'appelle la réformatrice, voilà. Dans le sens où elle a, c'est le même ordre, mais réformé, en plus fidèle aux origines.
Très bien, on a compris. Alors, on va faire une première pause musicale. Je vous rappelle que nous sommes donc en direct du Carmel de Toulouse, près de Muret, donc à l'occasion de leurs 400 ans. Et après cette première page d'histoire, donc avec sœur Marie-Claude, sœur Geneviève, donc prière de ce monastère, et sœur Marie de Jésus, à qui on donnera la parole tout à l'heure. Après cette première pause musicale, on entrera un petit peu plus dans le concret de votre vie de prière, de travail, votre vie communautaire. Voilà, des explications ou par la pensée, et grâce à vous, on va pénétrer un petit peu dans ce qui fait le mystère de votre vie.
Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe bien, ne change pas, ne change pas. La patience triomphe de tout, celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu. Ciel souffle. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe bien, ne change pas, ne change pas. La patience triomphe de tout, celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu. Ciel t'épouvante, tout passe bien, ne change pas, ne change pas. La patience triomphe de tout, celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu, seul suffit.
Radio Présence à Saint-Gaudens, 94.1. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission donc Vivante Église ce matin sur le Carmel de Toulouse qui fête ses 400 ans. Nous sommes en direct donc de ce Carmel près de Muret avec trois sœurs de ce Carmel, sœur Marie-Claude, sœur Geneviève qui est prieure de cette communauté et sœur Marie de Jésus qui ont la gentillesse de nous accueillir. Voilà, on parle doucement presque parce qu'ici c'est une atmosphère de silence. On entend la cloche d'ailleurs, je ne sais pas si on l'entend exactement à l'antenne. Francky Guéret me fait signe que si. Dans cette deuxième partie d'émission, j'aimerais avec vous qu'on essaye de rentrer un petit peu dans ce qui fait le mystère de votre vie. Parce que je disais, quand on arrive en voiture, déjà il y a comme un grand silence qui s'installe avec une grande allée. On tombe sur cette église où est écrit « Rappelez-nous ma mère ». La phrase au-dessus de la porte de l'église.
Tout passe, Dieu seul demeure.
Voilà, et pour des croyants ou pour des non-croyants, il y a quelque chose d'assez intimidant, même si nous, à Radio Présence, on croise régulièrement des religieux. Il y a là un mystère, surtout que, donc, on le disait au début d'émission, on décrivait, on est dans le parloir et il y a une grille qui nous sépare. Sœur Marie de Jésus, alors vous êtes rentrée donc au Carmel en 2009.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire quel âge vous avez et comment vous êtes arrivée ici ?
Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Je suis rentrée à 25 ans. Je suis arrivée ici parce que quand j'étais étudiante à Toulouse, j'ai fait partie d'une troupe de théâtre qui jouait la vie de Sainte Thérèse de Lisieux. Et il se trouve que les carmélites de Muret avaient prêté des habits pour jouer. Et on est venu jouer au Carmel pour les remercier. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le Carmel de Muret. Donc après, j'ai quand même fait mes études et j'ai travaillé.
Donc vous êtes venu jouer cette pièce de théâtre sur Sainte-Thérèse de Lisieux, ici
oui,
au Carmel.
Oui, au parloir, un peu comme aujourd'hui.
Le plus grand là-bas, il y en a un plus grand.
Voilà, et c'est vrai que de voir la communauté rassemblée, puis de jouer la petite Thérèse et de connaître la spiritualité du Carmel, ça m'a beaucoup rejoint.
Donc vous étiez déjà croyante ?
Oui.
Pratiquante ?
Oui.
Est-ce que vous aviez déjà pensé à la vie religieuse ou...
Peut-être quand j'étais petite, mais en fait, non. Jusqu'à ce que je rencontre le Carmel, je voulais être institutrice, quoi.
Alors, sans dévoiler les secrets de votre cœur, hein, mais comment de venir jouer à une pièce de théâtre et peut-être, je sais pas, être frappé par la vie de ses sœurs, comment on saute le pas de rentrer en clôture jusqu'à la fin de sa vie, à vivre cette vie de silence et une vie un peu spéciale, quand même.
Oui, je pense que pour chacune, il y a un chemin différent. Moi, en fait, j'ai vraiment approfondi ma vie de prière. Ça prenait de plus en plus de place dans ma vie. Et c'est vrai que d'avoir joué cette pièce de théâtre, ça m'a fait découvrir la spiritualité du Carmel. Et ce qui m'a beaucoup rejoint dans cette spiritualité, c'était que la communion des saints, que la prière d'une personne peut aider une autre personne à l'autre bout du monde. Et vraiment, pour moi, c'était le plus important.
Alors expliquez ça peut-être. Mettez-vous à la place de... Parce qu'on a des auditeurs, oui. Comme je vous disais en préparant l'émission, certains qui sont catholiques pratiquants, d'autres qui vont à la messe pour des grandes fêtes. Voilà, je pense qu'on a en tout cas une bonne partie de nos auditeurs pour qui Dieu n'est pas forcément quelqu'un.
Oui.
Et donc cette communion des saints dont vous parlez, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous pourriez l'expliquer peut-être pour les néophytes ?
Ça veut dire que chacun d'entre nous est secrètement lié aux autres, même si ça ne se voit pas, et que en vivant notre vie ici toute simple, tous les petits gestes qu'on va poser vont avoir un grand retentissement et pouvoir aider d'autres ailleurs, des malades, des gens qui sont en difficulté. Et la petite Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux, elle l'explique bien. Elle dit « Ramasser une épingle par amour peut sauver une âme ».
Qu'est-ce que ça veut dire « sauver une âme » si, c'est pareil, si vous deviez l'expliquer peut-être à quelqu'un qui n'est pas familier de... Ma mère, est-ce que vous pouvez l'aider dans ces cas-là ?
Peut-être.
Qu'est-ce que ça veut dire de sauver une âme ?
Sauver une âme, ça veut dire...
C'est dans la prière, croire que quelqu'un, à l'autre bout du monde, se tournera vers Dieu ou...
Oui, c'est que sauver quelqu'un, c'est de le sortir d'un endroit où il n'est pas fatalement bien. C'est pour son bonheur, si vous voulez, chercher son bonheur, voilà. Et nous savons... nous avons engagé toute notre vie jusqu'à la mort, donc c'est pas rien, puisque après la mort, on sait qu'il y a quelque chose. sinon on ne resterait pas là. Et si on reste là, c'est parce que justement on sait qu'il y a quelque chose, et ce quelque chose c'est un bonheur qu'on voudrait faire partager. Et donc le fait, quand on parle de l'âme, c'est ce qui est le plus profond en nous, et cette profondeur, il y a tout homme aspire au bonheur, qui que ce soit. Et dans ce bonheur, on l'a trouvé, et donc on voudrait que tout le monde le partage.
Mais il y a des gens qui sont heureux en dehors de la clôture. Ce bonheur a un nom particulier, c'est de connaître Dieu et de l'aimer.
Oui, le bonheur humain existe, heureusement. Mais c'est disons que c'est pas pour toujours, ce bonheur. On aspire encore plus à quelque chose de plus total. Et je crois que ce qui peut résumer la spiritualité du Carmel, et on l'a pas encore prononcé ce mot, c'est l'absolu. Voyez.
Alors,
on est faite pour l'absolu.
On y reviendra.
Et tout homme aspire à quelque chose d'absolu. Voilà. Et donc, quand on l'a trouvé, on voudrait que tout le monde trouve aussi cette joie plénière totale.
Alors, on y reviendra peut-être après. Donc, on revient à vous, sœur Marie de Jésus. Donc, du coup, vous sentez un appel, c'est ça, à la faveur de cette pièce de théâtre. Et est-ce que c'est à la faveur de cette pièce de théâtre? Enfin, comment vous sautez le pas, en tout cas, entre cette pièce de théâtre? Donc, vous avez cette découverte intérieure, vous nous avez dit, de la grandeur de la prière, de la communion des saints, mais jusqu'à arriver ici, peut-être.
Ça s'est fait doucement et naturellement, je crois. Comme je vous ai dit, donc, j'ai découvert, grâce à cette pièce de théâtre, la spiritualité. Et après, c'est vrai que j'ai beaucoup plus pratiqué ma foi. J'allais à la messe tous les jours. Je priais aussi tous les jours, de plus en plus. Puis je venais faire des séjours au Carmel. Et puis, finalement, après, quand j'ai fini mes études, j'ai décidé de venir ici et de rentrer au Carmel.
D'accord. Alors, vous avez un voile blanc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être, c'est pareil pour les néophytes, la différence entre le voile blanc et le voile noir qu'ont vos sœurs à côté de vous?
Oui, ça dépend des étapes. On n'est pas carmélite du jour au lendemain. Donc, quand on arrive au Carmel, d'abord, on est postulante pendant un an. On est habillée en civil, normalement. Et puis, au bout d'un an, on prend l'habit, on a un voile blanc et on devient novice. On est novice pendant 2 ans. Et après, au bout des 2 ans de noviciat, on fait des premiers vœux pour 3 ans. On reçoit un crucifix qu'on porte sur son cœur. On a toujours le voile blanc. Et puis après, quand on a fait les années de profession temporaire, on fait la profession solennelle. Et c'est là qu'on reçoit le voile noir, comme ont les autres sœurs.
Alors, comme on est quand même sur une radio chrétienne, pour ceux qui sont plus initiés à la vie chrétienne, on imagine aussi que l'amour secret de votre vie, c'est Jésus.
C'est pas très secret. Hein.
Voilà, c'est pas si secret que ça, puisque vous portez une croix, même si on la voit pas.
Ah oui,
voilà.
Tout le monde.
Et qu'est-ce que vous diriez pour, sœur Geneviève disait que dans le cœur de chacun, en fait, il y a un désir d'absolu. Qu'est-ce que vous diriez de Jésus, peut-être, à des gens, parce que là, moi, je vous vois toutes les trois, mais je vois pas Jésus. Et pourtant, mystérieusement, c'est semble-t-il pour cette personne que vous êtes rentrées toutes les trois. Alors, qu'est-ce que vous diriez à des gens, est-ce que j'imagine que ça vous arrive d'en rencontrer à l'accueil, qui ont du mal à comprendre cette personne, cette relation avec cette personne mystérieuse qu'on ne voit pas et qui pourtant est, semble-t-il, votre... Votre époux, même, dit-on, quand vous êtes religieux.
Oui, complètement. Mais en fait, c'est vrai que Jésus, on ne le voit pas, mais quand on prie, on s'aperçoit qu'il est vivant. C'est vraiment une personne vivante avec qui on peut avoir une relation. Et d'ailleurs, les heures de prière silencieuses qu'on a, c'est pour cultiver cette relation personnelle avec Jésus. On ne le voit pas forcément avec nos yeux, mais à l'intérieur de nous, il y a des sens qui vont s'affiner et qui vont permettre d'être sensibles à sa présence. Des fois, il va nous parler dans la parole de Dieu qu'on va lire, on va sentir un verset qui est pour nous ce jour-là. Et aussi, on passe beaucoup de temps en présence du Saint-Sacrement à la chapelle. Et pour
donc
nous,
le Saint-Sacrement, c'est l'Eucharistie, c'est consacré l'Eucharistie. Pendant la messe. Pour les catholiques, c'est la présence réelle du Christ.
Voilà, et pour nous, c'est des moments très importants. Et c'est vrai que toutes les carmélites et chacune considèrent Jésus comme son époux. et a une relation vraiment particulière et unique avec lui.
Alors, merci beaucoup, hein, Sœur Marie-Geneviève. Sœur Marie-Jésus. Sœur Geneviève, on l'a dit au début de cette émission, la particularité de la spiritualité du Carmel, c'est peut-être une spiritualité, de la solitude, enfin la radicalité, j'allais dire, mais ça, c'est propre à toutes les vies consacrées.
Solitude et vie fraternelle, voilà les deux choses.
Et la place faite à l'oraison.
Et la spécificité du Carmel, c'est les deux heures d'oraison silencieuses.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette forme de prière? Parce que, par exemple, des monastères bénédictins où il y a beaucoup d'offices qui sont dites, vous priez en silence.
Alors, je vais vous citer Sainte Thérèse d'Avila, vous allez voir tout de suite, c'est simple. L'oraison n'est rien d'autre, à mon avis, dit-elle, hein, c'est elle qui parle, qu'un commerce d'amitié où l'on s'entretient souvent et intimement avec celui dont nous savons qu'il nous aime. Non, nous savons qu'il nous aime. Voilà. Donc ça veut dire c'est un cœur à cœur, une rencontre personnelle. On parle comme on parlerait à une personne qui est en face de nous. Parce que Jésus, il est invisible, mais il n'est pas sans effet. Les effets de la présence de Dieu sont quelquefois très sensibles et d'autres fois dans l'obscur, bien sûr, dans la nuit, mais d'autres fois sensibles. Et c'est dans les effets que l'on voit, c'est quoi? C'est la paix, la joie, on se sent bien là où on est, on a envie de le rencontrer, et tout ça, c'est lui qui nous le donne. Ce sont des dons, des cadeaux qu'il nous fait. Et il y a des moments très intenses de grande joie qui, dans la nuit, continuent à être des lumières qui brillent et qui nous disent « je suis là ». Voilà, il est là. Si on ne le voit pas, on sait qu'il est là. Et souvent, dans notre propre vie, on se rapporte à ces moments de lumière pour continuer à marcher. Parce qu'il y a toujours une lumière qui éclaire. C'est jamais une nuit totale, sauf si le Seigneur le permet, pour différentes raisons, mais c'est toujours pour grandir dans l'amour. Alors, un peu comme un époux qui se cache pour être davantage désiré. Et donc, voilà.
Donc, il y a ces deux heures d'oraison, peut-être pour un aspect plus pratique, à quoi ressemble votre vie en dehors de ça? C'est-à-dire que donc, vous avez ces temps de prière, vous avez aussi les temps de prière communautaires, voilà. Vous travaillez.
Voilà, on travaille. Alors, ces deux heures d'oraison, c'est ce moment, donc, en principe, où dans la foi, c'est-à-dire on le croit quand on ne sent pas toujours, on est en intimité avec le Christ seul, parce que c'est deux heures de prière silencieuse, dont personne ne parle, mais on est toutes ensemble. C'est très beau, au trop cœur, surtout le matin, à 6 heures, de 6 à 7, là, quand il n'y a pas de bruit, aucun bruit, quand c'est la nuit, quelquefois, l'hiver, et ce silence total, et seulement la lampe du tabernacle où se cache Jésus, si vous voulez, voilà, qui est en face de nous, voilà. C'est vraiment l'époux qui est en face de nous, on n'a que ça, que cette lumière-là. Et le soir, c'est pareil, quelquefois, quand il fait nuit ou quand il ne fait pas nuit, on est toujours en face. Les gens sont dans la chapelle et nous sommes en équerre, si vous voulez, on est face au tabernacle.
Et en dehors de ça, donc, vous avez d'autres
voilà.
Offices.
Alors ça, c'est pas, les moments de communion avec Dieu ne sont pas que à ces deux heures-là. Quelquefois, on ne sent rien à ces moments-là, et c'est pendant le temps du travail, pendant l'office, pendant la messe. La messe, qui est le sommet, comme disait Sainte Marie de Jésus, c'est le sommet de notre vie, puisque là, on retrouve l'époux d'une manière concrète dans la communion, dans l'Eucharistie. C'est encore un don qu'il nous fait de sa grâce, là, de son cadeau de tous les jours, qui nous aide à porter le poids du jour et de la chaleur, comme on dit quelquefois.
Donc,
ou du froid.
Donc l'oraison, donc l'Eucharistie, il y a des offices, et puis donc il y a ces temps.
Les offices,
ce
sont des temps de prière où on chante des psaumes.
Donc il y a ces temps de vie fraternelle, donc deux heures de récréation par jour. Et donc vous travaillez aussi. Qu'est-ce que vous faites comme travail ici, dans ce Carmel?
Alors, donc, notre principal travail, le travail le plus de sœurs, c'est la reliure. Mais ça, peut-être Sainte Marie de Jésus pourrait vous en parler aussi, parce qu'elle y a travaillé quelque temps, maintenant elle est prise davantage à l'accueil. Ensuite, on a eu les ornements, mais on va les reprendre peut-être, il y a une sœur qui se prépare à ça. Pour le moment, on a arrêté à cause de la sœur qui est décédée l'année dernière, qui faisait des très beaux ornements, qui étaient connus dans toute la région, on était assez... Voilà. Ensuite, tout ce qui concerne la messe, c'est-à-dire les linges d'autel, les aubes, les... Enfin, qu'est-ce qu'il y a encore? Les choses comme ça, les nappes d'hôtel.
Et l'accueil aussi, puisque là, vous accueillez beaucoup de
monde. Oui, l'accueil. Qu'est-ce que c'est qu'on fait encore? Et puis le travail de maison, c'est-à-dire...
Allez-y, ma sœur. Après, on va faire une deuxième pause. Sœur Marie-Claude.
Oui, il y a aussi tout le travail de maison, parce que nous ne sommes pas des anges. La maison est grande, il faut l'entretenir. Il y a la cuisine, l'entretien du linge, comme dans une maison. Alors, on s'occupe quand même pas mal de sœurs. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que pendant les temps de récréation, nous nous retrouvons ensemble. Nous parlons de ce qui nous intéresse. Mais chacune a son ouvrage. On n'est pas là où aussi va se tourner les pouces.
Vous continuez à travailler pendant votre récréation.
Oui, oui. Alors les sœurs Larue lui ramènent leur grand cousoir où elles cousent les livres. Il y a d'autres qui font leur accommodage, d'autres qui épluchent les légumes. Et c'est... Et alors on parle, quelquefois on parle de l'actualité ou de ce qu'on a entendu au réfectoire. Parce que les repas sont pris en silence, mais il y a une sœur qui fait la lecture. Alors après on échange sur ce qu'on a entendu, ou bien des fois on raconte des choses qu'on a vues dans le jardin, quand elle se promenait, les écureuils, enfin, c'est très détendu.
Voilà, donc la vie au Carmel, une vie à la fois ordinaire et extraordinaire. Je vous remercie à nouveau, même si on n'a pas fini cette émission. Je vous rappelle que nous sommes donc en direct du Carmel de Toulouse, près de Muret, avec sœur Marie-Claude, sœur Geneviève et sœur Marie de Jésus. On va faire une deuxième pause musicale et puis après on va essayer de voir quel est le rayonnement de ce monastère. Qu'est-ce qu'on peut dire du rayonnement de cette vie mystérieuse, silencieuse et des grâces que vous avez pu toucher du doigt tout au long de votre vie religieuse.
Radio Présence à Toulouse, 97.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, cette émission Vivante Église est spéciale, un peu exceptionnelle, donc en direct du Carmel de Toulouse, qui fête cette année ses 400 ans. Nous sommes donc près de Muret, puisque c'est ici que ce Carmel est installé depuis un peu plus de 50 ans. Et je vous rappelle que nous sommes avec, si vous nous prenez en cours de route, avec sœur Marie-Claude, sœur Geneviève, qui est prieure de cette communauté, et sœur Marie de Jésus. Alors, sœur Marie-Claude, vous vouliez nous raconter une petite histoire,
oui,
une petite anecdote pour vous rendre plus humaine.
Qui m'est revenue en écoutant son mari de Jésus parler de Jésus comme notre époux. C'est une histoire, ça s'est passé dans ce parloir où nous sommes là. Il y a quand même un certain nombre d'années. La représentante d'une maison d'épicerie, en gros, qui passait tous les mois pour prendre notre commande d'épicerie. Et c'était l'économe. L'économe de l'époque qui la recevait et qui lui donnait la liste des produits dont nous avions besoin. Et ce jour-là, après avoir parlé épicerie, elle s'est mise en devoir de la catéchiser un peu. Alors elle lui a parlé de Jésus comme notre époux. La dame est tombée des nues, elle lui a dit « Ah, mais si vous avez toutes le même époux, mais comment vous faites? Vous n'êtes pas jalouses les unes des autres ?» Alors, Mère Marie-Geneviève, l'économe, lui a expliqué que tout de même si nous avions le même époux, chacune avait une relation personnelle avec lui, et qu'il est assez grand pour que chacune... Il y a un aspect personnel pour chacune. Enfin, elle a bien expliqué. Mais on a bien ri quand elle nous l'a raconté.
Ma mère, cette anecdote dit quand même quelque chose de profond. Est-ce que vous avez autant de gens qui viennent au monastère qui en fait, ont du mal à comprendre en fait, ce qui fait le mystère de votre vie que de gens qui viennent parce qu'ils sont en affinité avec vous? Ou est-ce qu'il n'y a que des catholiques convaincus qui viennent rendre visite?
Non. C'est ce qui est beau. On est là pour quelque chose, on ne bouge pas, nous, mais on fait le tour, je ne dis pas du monde aussi, quoi que le fasse du monde, mais souvent de tout ce qui se passe dans la société. Et ça nous permet de toucher du doigt les drames, comme les joies d'ailleurs, de ce qui se passe dans le monde. Donc souvent, nous avons des personnes, le plus souvent, c'est quand même le diocèse qui est la paroisse, les paroisses du diocèse, parce qu'il n'y a pas que la paroisse de Muret qui vient, donc tous les catéchistes, les enfants les plus petits, première communion, les confirmants, les catéchistes eux-mêmes, les adultes, les groupes de recommençants, les groupes de confirmants. Enfin, il y a des adultes maintenant qui
viennent passer du temps au monastère, ça voulait dire.
Oui, qui font des groupes, pas souvent, mais une fois par an, une fois tous les... Je ne sais pas, ça dépend. Et on a même la joie d'avoir des groupes de handicapés, quelquefois. On aime beaucoup d'avoir tout
Alors, sœur Marie de Jésus, donc vous vous occupez de l'accueil, donc c'est une fonction un peu particulière. Vous voyez toutes ces personnes venir jusqu'au monastère.
Oui.
On disait pendant la pause en fait qu'il y a à la fois les plus grandes ombres de notre société qui viennent jusqu'à vous, comme parfois les plus grandes joies. Pour les ombres, qu'est-ce que vous citeriez comme exemple? On vous demande déjà beaucoup de prières. Pour quelles intentions, par exemple, difficiles?
Les intentions, souvent ce qui est difficile, c'est que les gens les confient par téléphone et on ne sait pas trop qui est au bout du fil. C'est vrai que les gens confient des intentions pour des couples en difficulté, par exemple, ou alors pour des grossesses difficiles, ou alors ça m'est arrivé un jour d'avoir un coup de fil d'une amie d'une sœur qui connaissait une amie qui avait tenté de se suicider. Donc c'est vrai que des fois on est face à des gens qui sont des situations extrêmement difficiles et où on n'a pas forcément de mots pour les consoler. Et ce qui est fort, c'est que vraiment pour eux le plus important c'est notre prière et ils ont une grande foi et une grande confiance dans notre intercession. Et le fait de prier en communauté, de savoir qu'on n'est pas tout seul à porter cette intention, ben pour moi, quand je suis à l'accueil, c'est très important. Je me sens envoyée en mission par mes sœurs et ce que je reçois, et ben après, je le porte avec elles.
Alors, ma mère, vous aviez d'autres exemples, par exemple, pour les...
Oui, souvent, c'est par téléphone aussi. Il n'y a pas que des personnes qui viennent. Par téléphone, je me rappelle une fois, ça a été... La personne pleurait au téléphone parce que justement, c'est une grand-mère, c'est souvent les grand-mères qui s'occupent des petits-enfants et qui me confiait que par Internet, un de ses petits-fils de 15 ans, non seulement il était accro, mais il était tombé sur un site, il le voyait changer tous les jours de comportement, alors que c'était un garçon extrêmement calme, qui travaillait bien en classe, et de plus en plus, il négligeait les études, et finalement, ils ont appris que c'était sur un site satanique qu'il allait, et qu'il commençait à se laisser influencer par ça, et dont même il a montré à sa grand-mère, avec qui il avait beaucoup de confiance, ce site, et la grand-mère elle-même a entendu ce que disaient certaines voix, c'était terrible, de tuer telle personne, tuer son père et sa mère, enfin c'était épouvantable. Alors quand elle a entendu ça, elle s'est précipitée ici pour dire, ben voilà, priez fort pour ça, parce que Et un garçon qui était, je pense qu'il était chrétien quand même.
Est-ce que ouais. particulièrement quand on a votre vie de solitude, en fait, justement, c'est les grands cris de détresse, souvent oui. c'est l'occasion pour les gens de se tourner vers Dieu, oui, ou en tout oui, cas oui. de jeter une oui, prière vers le ciel. Les oui. gens se tournent particulièrement vers vous dans les moments difficiles.
Pour moi, ce que je pourrais dire le plus émouvant que j'ai vu depuis que je suis au Carmel, c'est le fait d'une personne qui a envoyé par courrier un crucifix. Et elle disait, je l'ai encore, ce crucifix, avec sa lettre, « Ma mère vient de décéder, ce crucifix était à elle, moi je ne crois à rien, mais je ne veux pas le jeter, je vous le porte pour que vous me portiez dans ce qu'elle appelait, elle, la prière. » Ça, c'est la chose la plus émouvante que j'ai eue, et je l'ai gardée longtemps dans l'atelier où je travaillais, parce que je me disais, c'est avec le mot, parce que je le transmettrai à la personne qui succédera. Portez-moi dans votre propre prière. C'était touchant, parce qu'elle me dit qu'elle ne croyait à rien. Mais c'était sa grand-mère, c'était voilà, une
Alors,
chose émouvante comme ça. Voilà.
Parfois, cette prière vous touche. Souvent, en oui. fait, la vie de prière dans un monastère, c'est une vie en fait, où on aime un peu à l'aveugle. En fait. On aime
oui,
dans
oui,
le
si
mystère.
On
ne vous veut. Rendez pas compte, en fait, quelque part, de la fécondité de
oui,
votre vie.
Voilà.
Est-ce que vous avez quand même quelques fioretti? Est-ce que vous avez glané au long de ces années?
Oui. Il me vient à l'esprit quelque chose de très important pour moi, parce que c'est important aussi pour mes sœurs. Je leur raconte d'ailleurs de temps en temps. Du moins, celles qui arrivent à nouveau, des nouvelles qui arrivent, mais c'est un témoignage de la communauté. Donc, pour montrer comment la prière entre nous-mêmes peut être quelque chose de très fort. Nous avions une sœur, sœur Myriam, qui était très très malade. Elle était tellement malade qu'elle ne pouvait même plus manger seule. C'était une sœur qui, de temps en temps, la faisait manger. Et donc, elle ne pouvait même pas lever son bras pour manger. Et un soir, c'était moi-même, je le dis parce que je l'ai vécu, donc je peux raconter ce que j'ai vécu. J'étais très, très... Bon, ça arrive à tout le monde. J'étais un petit peu bon, triste, tout, comme ça. J'étais jeune professe. Et donc, je me suis dit, mais tu ne vas pas continuer comme ça, à faire l'imbécile, à tourner dans ton petit bocal. J'ai dit, tu vas faire quelque chose pour les sœurs. Et j'ai préparé un mobile. C'est vous savez, c'est ce petit chose qu'on suspend en feutrine sur des petits bâtons. Et on les met en équilibre et puis on le suspend. Voilà. Et je l'ai donné pour la fête de la prieure. On fête la prieure, on fait des petites choses. Et c'est tout. Et je n'y ai plus pensé. Voilà que 3 mois après... Vraiment, je me dis, Seigneur, quand même, ce serait beau qu'on puisse avoir de temps en temps un petit effet, un petit produit de notre prière. Eh bien, il m'a exaucé. J'apprends tout le soir, on me dit, vous savez, sœur Myriam s'assied sur son lit et elle mange toute seule. Ah bon ? Moi, je me réjouis avec tout le monde. Mais vous savez pourquoi ? C'est l'infirmière qui parlait. On y a accroché un mobile. Je ne savais même pas que c'était moi qui l'avais fait, un mobile au-dessus du lit, vous savez, à la tige où on met pour les malades, et tous les jours, elle soufflait dessus pour faire tourner ses papillons. Et donc, à force de souffler, ça lui a donné la force.
Et alors,
commence à manger.
En quoi vous y voyez une, comment dire,
cet acte...
De la fécondité de la prière, parce qu'on a envie de dire, vous avez juste fait un mobile et puis
non,
elle s'est mise à souffler dessus.
C'est l'acte que j'ai posé intérieur. J'ai dit, mais c'est un acte gratuit, mais pour les sœurs. Je l'ai fait pour sortir de moi, c'est vrai.
Mais en quoi ça illustre la fécondité de la prière pour vous, c'est...
Oui, de la communion entre nous, voyez. Je n'ai pas pensé à rien du tout. Je n'ai pas pensé même pas à la sœur. J'aurais pu le faire pour elle, même pas. Je l'ai fait pour sortir de ce marin et dans une communion de communauté. Voilà.
Alors, est-ce que vous avez d'autres exemples peut-être de la fécondité de la prière? Vous m'en citiez tout à l'heure quelques-uns. Des guérisons parfois ou...
Oui, on a souvent des gens qui nous demandent de prier pour des gens qui sont malades très gravement. Et là, dernièrement, on nous a demandé de prier pour une personne qui avait une tumeur à l'épaule, qui en plus était handicapée. Et toute la communauté s'est vraiment mise à prier. Et après, j'ai demandé des nouvelles à une dame qui la connaissait. Puis elle me dit, oh, vraiment, on n'en revient pas. C'est vraiment un miracle parce qu'elle aurait dû avoir beaucoup d'effets secondaires parce qu'elle a eu des rayons, un traitement très lourd. Et elle a dit vraiment, elle est guérie, sa peau est redevenue normale et on ne l'explique pas. Et pour nous, ça a été une source de grande joie de voir qu'elle souffrait plus, quoi.
Sœur Geneviève, vous disiez souvent que les gens viennent dans votre chapelle parce qu'ils y cherchent le silence et que certains, l'expérience de ce silence est l'occasion de rencontrer Dieu.
Oui. Et donc, il y a un monsieur qui est venu pendant des mois et des mois. Bon, son allure n'était pas très rassurante parce que, bon, ça c'est pas la faute de personne d'avoir un look particulier, mais quand même, son attitude qui était bizarre. Il était là, il regardait la lumière du tabernacle, il regardait du côté des sœurs qui étaient de l'autre côté, là, assises par terre. Bon. Et alors, il était interloqué de ça, il regardait. Et un jour, il s'est hasardé à parler avec la sœur qui était d'accueil, qui était une autre sœur que Saint-Marie de Jésus à l'époque. Et donc, il lui dit, mais qu'est-ce que c'est qu'elles font là, toutes ces sœurs? Qu'est-ce qu'elles font? Elle dit, mais voilà, elle prie pour tout le monde, pour le monde. Et elle a dit, moi aussi, je peux prier aussi. Bien sûr, il a dit. Alors parce que je me sens bien dans cette chapelle. Je ne viens que pour la paix, mais il y a quelque chose de plus qui m'intrigue. Et alors donc, elle y a parlé de Jésus, et donc il a recommencé, et l'aumônier s'en est occupé, qui était là. Non seulement il s'en est occupé, il ne rêvait que d'une chose, c'est enfant de cœur. Alors le voilà-t-il pas un enfant de cœur avec une aube, des cheveux très très longs, enfin une barbe pas possible, enfin bon voilà. Avec son propre look, mais il était avec son aube. Et alors, il était content de cette danse tombe tous les jours. C'était un prince qui arrivait à la chapelle. Voilà.
Pour finir, peut-être cette émission touche à sa fin. J'aurais une question pour nos auditeurs qui, à la fin de cette émission, l'ayant écoutée, ont du mal malgré tout à comprendre ou à rentrer dans le mystère de votre vie. Voilà, de l'autre côté de ce grillage, qui signifie cette clôture où vous êtes, comme vous dites, jusqu'à votre mort pour prier mystérieusement pour le monde. Comment vous diriez à nos auditeurs, comment ils peuvent se mettre en chemin? Quel premier pas poser pour mettre les pas, non pas forcément dans une vie de religieuse, dans un carmel, mais poser quelques pas, quelques gestes pour chercher Dieu? Qu'est-ce que vous diriez l'une ou l'autre? Je ne sais pas, peut-être Sœur Marie de Jésus. Quel conseil vous donneriez?
Moi, le conseil que je donne des fois à des personnes qui me demandent, c'est d'aller voir Jésus de temps en temps, de prendre le temps de rentrer dans une église, de faire un petit effort, de rentrer, de rester là quelques instants, de faire l'effort de dire quelque chose à Jésus dans la foi qui est présent au tabernacle, de lui dire simplement « Bonjour Jésus, je suis là, tu vois, je suis venue te voir, je t'aime beaucoup », lui confier une intention de prière peut-être, mais d'apprendre
ses actes de foi, en fait.
Des petits actes de foi qui ne durent pas très longtemps, pas la peine de passer une demi-heure, mais régulièrement d'entretenir cette relation vivante avec Jésus.
Eh ben, merci beaucoup, mes sœurs. Donc, sœur Marie-Claude, sœur Geneviève, que je remercie particulièrement, qui est donc prière de cette communauté, et sœur Marie de Jésus, qui, au pied levé, a accepté de participer à cette émission. Merci beaucoup pour cette émission, donc en direct sur le Carmel de Toulouse, qui fête ses 400 ans, en direct de Muret, où votre communauté est installée. Cette émission a été réalisée par Francky Guéret. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h, ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.